Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous allons parler du traitement des eaux à tous les niveaux, au niveau particulier des piscines, de votre eau privée, des fleuves, des ports et même de l'irrigation. Donc pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai donc Laurent-Emmanuel Michon. Bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Alors, donc, il est président de Bio UV, une boîte qui a été créée il y a à peu près 20 ans, mais que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, parce que, bien sûr, c'est une société qui est installée proche de Montpellier, puisqu'elle est à Lunel, mais en même temps à Glasgow. Alors, racontez-nous cette saga un petit peu de l'installation de Bio UV.
Effectivement, BioUV est une belle histoire locale, mais avec une empreinte internationale. BioUV fêtera ses 25 ans en 2025, et c'est une société qui, après avoir démarré dans le monde de la piscine privée, s'est développée assez rapidement, puisque aujourd'hui c'est une structure qui fait un petit peu moins de 50 millions de chiffres d'affaires, qui réalise 50% de son activité.
Qui fait que 50 millions de chiffres d'affaires, mais qui est bien coté en bourse.
Exactement.
J'ai vu que ça marchait bien.
La cotation est des fois compliquée, mais effectivement, c'est un des éléments de la vie de cette société. En 2018, cette société s'est introduite en bourse. Et grâce à l'argent qui a été levé au moment de l'introduction en bourse, on a pu se développer, notamment en rachetant une filiale de Suez en Écosse, à Glasgow, qui était spécialisée dans une des technologies qui nous intéresse, puisque BioUV est une société de désinfection et traitement de l'eau sans chimie ajoutée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez BioUV, comme son nom l'indique, à Lunel, on travaille avec une technologie qui est l'UV. En Écosse, on a racheté une filiale de Suez qui travaillait avec de l'ozone. Et en 2021, on a racheté une structure pas très loin de chez nous à Toulouse qui s'appelle Corelec, qui était spécialisée dans l'électrolyse de sel.
Alors, vous dites UV, mais après tout, tout le monde ne sait pas ce que c'est que les UV. On en parle, bien sûr, les femmes qui vont se bronzer font attention à leurs indicateurs, 30 UV, 50 protecteurs, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous utilisez l'UV et qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors en fait, c'est une technologie, comme vous le dites, qui est assez naturelle, puisque l'UV, ça vient du soleil. C'est les ultraviolets, ils ont plusieurs longueurs d'onde. Et nous, celle qu'on utilise, c'est la longueur d'onde C. Donc on utilise les UVC, qui effectivement peuvent être dangereux, mais c'est aussi ce qu'on utilise pour notre technologie. Donc il ne faut pas être trop proche et on met des éléments de protection. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette longueur d'onde, elle a la capacité de détruire les liaisons ADN dans les organismes vivants. Ça veut dire qu'on empêche la reproduction des bactéries, des levures.
Donc on s'aperçoit qu'elle est vraiment dangereuse. Il faut faire vraiment attention, quoi.
Il faut faire attention dans la façon dont on l'utilise. C'est pour ça que généralement, les lampes qu'on utilise qui émettent les longueurs d'onde sont protégées par une gaine quartz et sont à l'intérieur d'un réacteur dans lequel l'eau passe. Donc on a mis à cette technologie qui existe depuis une centaine d'années, donc qui n'est pas un brevet spécifique de BioUV, certaines limitations pour protéger les utilisateurs, mais qui est très efficace en fonction des puissances qui sont utilisées pour désactiver les bactéries, les levures, tous les organismes vivants dont on ne souhaite pas l'existence.
Alors comment vous faites ? Parce que les UV, pour nous, c'est quelque chose d'ingérable. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne... Comment vous les gardez ? Enfin, comment vous travaillez une année entière avec les UV ?
Alors, en fait, cette technologie-là, elle est liée à un gaz qui émet des UV. Donc, notre premier métier, c'est d'essayer de dimensionner, vous avez raison, la puissance qui est à adapter en fonction de la qualité des eaux sur lesquelles on va travailler. Donc, une eau qui est plutôt très sale ou très concentrée en organismes vivants nécessitera une puissance assez importante. Et c'est toute la force de notre entreprise. Il n'y a pas de brevet, je vous l'ai dit. En revanche, on a des bureaux d'études qui sont très spécialisés dans le dimensionnement, la conception des produits ou des solutions qu'on peut proposer à nos différents clients. En fonction d'une piscine, c'est ce qu'il y a peut-être de plus facile parce que l'eau est plutôt propre et il n'y a pas mort d'homme, généralement. Par contre, dans des eaux pour l'aquaculture ou des eaux industrielles ou des eaux de ballast, il faut des puissances plus importantes, des débits qui sont plus grands et des qualités et des conceptions de solutions qui sont complètement
Alors,
différentes.
Alors, on va en parler plus longuement, mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Comment les UV, on les produit au quotidien? Nous, on a l'habitude des UV pendant l'été, au moment où le soleil est extrêmement fort. Mais donc, vos UV, vous allez les produire comment et de quelle manière vous allez les conserver en continu?
Alors, en fait, nos UV, ils ne travaillent pas en continu comme le soleil. On reproduit les longueurs d'onde du soleil, les UVC, avec des lampes. Donc, on achète des lampes qui nécessitent de la puissance, comme pour le soleil. Donc, en fait, on a des batteries qui permettent d'alimenter des lampes, et ces lampes émettent des UV. Donc, généralement, elles ont une durée de vie d'en gros 15 000 heures. Donc, dans une piscine, c'est l'équivalent de 3 ans d'activité, 3 à 4 ans d'activité. Pour les ballasts, ça peut être 4 à 5 ans pour les maritimes. Mais souvent, c'est une utilisation qui ne se fait pas en continu et qui est liée à, en fait, une impulsion électrique dans une lampe qui fait que le gaz qui est stimulé par cette impulsion électrique émet une longueur d'onde identique à celle qu'on peut trouver dans le soleil. Donc, on reproduit l'énergie solaire et les UVC.
Très bien. Là, je pense que c'est clair et tout le monde voit qu'on peut donc utiliser cette technologie absolument toute une année, hein, sans problème.
Il n'y a pas de problème.
Voilà. Alors, vous êtes intéressé à l'eau très rapidement. C'était votre dossier principal, puisque vous nous avez dit, vous avez commencé par les piscines, etc. Donc, par des petites quantités, finalement. Mais cette crise de l'eau dont on parle beaucoup aujourd'hui à cause du réchauffement, est-ce que vous aviez, vous, déjà dans la tête, au moment où vous avez monté BioUV, ce qui allait advenir, et est-ce que vous aviez connaissance de ces crises de l'eau qui allaient être de plus en plus aujourd'hui flagrantes?
Alors, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'anticiper, c'est d'essayer de savoir ce qui peut se passer ou en tout cas d'imaginer des scénarios qui pourraient avoir un impact sur l'évolution de notre entreprise. C'est aussi de prendre des risques et c'est de trouver les opportunités. On ne peut jamais tout appréhender, mais on peut essayer d'imaginer ce qui peut se passer. Donc aujourd'hui, dans la problématique liée à l'eau, il y a les excès, on voit ce qui se passe à Valence, et puis il y a le manque d'eau. Il y a la qualité de l'eau, les pollutions qui sont liées à l'eau, et il y a les problématiques de répartition. Nous, on travaille principalement sur les volumes d'eau, donc les aspects qui sont liés à la quantité d'eau, et les aspects qui sont liés à la qualité d'eau. On travaille très peu sur la répartition, ce n'est pas notre travail, et on travaille assez peu sur les niveaux de pollution, même si on commence à travailler, et hier, on a reçu un prix pour un projet d'innovation avec une société qui s'appelle Coldep, justement pour pouvoir travailler sur un mot qui doit parler à beaucoup de vos auditeurs, qui s'appelle les PFAS, qui sont des dégradations des éléments fluorés, qu'on ne mesure pas trop encore en France, mais qui se fait depuis
et
nombreuses années.
Et qui atteignent la santé, en fait, va rappeler en gros, les PFAS sont effectivement des particules fines, qui sont beaucoup plus fines que celles sur lesquelles on a travaillé, qui sont les PM20, les PM50. Aujourd'hui, on vient de découvrir, la recherche vient de mettre à jour ces PFAS, et on ne sait pas très bien comment s'en sortir, d'autant que ce sont des molécules excessivement fines, mais donc qui arrivent dans le sang, mais qui en plus transportent d'autres molécules.
Oui, pour lesquelles en plus la dégradation n'est pas toujours connue, leur métabolite non plus. Donc on travaille assez peu historiquement sur cette dimension-là, mais on commence à le faire et on essaie d'anticiper, puisque ces PFAS sont traités depuis maintenant une quinzaine d'années aux États-Unis et ça viendra en Europe. Il n'y a aucun souci
c'est
là-dessus.
C'est en cours, effectivement, dans le cadre de la future directive sur la santé, très certainement, mais l'OMS s'en charge déjà.
Et donc, nous aussi, on essaie d'anticiper. Donc, à votre question qui était de dire, est-ce qu'on pouvait anticiper un certain nombre de choses? Oui, sur les problématiques qui étaient liées à la raréfaction de l'eau. On travaille dessus, on a toujours essayé de travailler dessus, notamment avec des systèmes qui permettent de mettre à disposition des bornes qu'on appelle Biosun en Afrique pour aller chercher de l'eau dans les nappes phréatiques ou dans des puits grâce
vous
à l'énergie solaire.
Vous travaillez avec Cosmosun?
Non, on connaît leurs produits, on connaît leurs solutions et on a essayé de développer un système il y a maintenant une dizaine d'années en Afrique pour pouvoir amener de l'eau sans, et éviter des kilomètres et des kilomètres et d'aller piocher dans les profondeurs. Donc on essaie d'anticiper, mais plutôt sur une dimension raréfaction de l'eau. C'est pour ça qu'il y a déjà plus de 15 ans, on travaillait sur la dimension de la réutilisation des eaux usées traitées dans des territoires comme le Maroc, la Tunisie ou plutôt le Maghreb, et aujourd'hui ça commence à s'accélérer. Sur la dimension biodiversité, Notre activité sur le traitement des eaux de ballast maritimes, c'est aussi un élément. Donc oui, on est obligé d'anticiper, on ne peut pas tout faire. On est une petite société, on est innovant, on est flexible, on essaie de s'adapter, mais on ne peut pas tout faire.
Mais vous restez à l'écoute, forcément. Est-ce que vous faites quand même un peu de prospective? Oui, bien sûr.
On fait de la prospective, on a une équipe dédiée à l'innovation et au développement. On essaie de voir, en fait, en fonction de nos forces, de nos compétences, interne et éventuellement de partenariat, parce que quand on commence à avoir une petite notoriété, il y a des gens qui viennent vous voir en disant « Tiens, au fait, vous êtes reconnu dans le monde maritime, vous êtes la seule société européenne quasiment à faire des systèmes de traitement de ballast. Nous, on est intéressés, on fait du traitement de coque, on a mis des robots pour pouvoir aller. Tiens, est-ce qu'on peut trouver un partenariat ?» C'est souvent des relations humaines ou une confiance qui s'installe ou une rencontre qui font qu'on travaille ensemble.
Alors effectivement, moi je connaissais un peu BioUV, UV, mais je vous ai découvert vraiment dans le cadre du colloque sur les ports du futur où vous interveniez sur les eaux de ballast. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'on appelle les eaux de ballast et pourquoi aujourd'hui vous êtes obligé et vous avez en tout cas l'autorisation de les traiter, et c'est quand même une part importante de votre activité.
Oui, effectivement, le traitement des eaux de ballast dans les navires est lié à une réglementation qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Mais à partir de 2017, les navires d'une certaine taille qui pouvaient changer d'océan ou de mer avaient l'obligation d'avoir un système de traitement de leurs eaux de ballast. Un système de traitement des eaux de ballast, ça veut dire que lorsque vous pompez de l'eau pour équilibrer votre charge...
Il faut expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que...
Un ballast, en fait, voilà. Ça permet d'équilibrer. C'est... un espace, un volume d'eau qui permet en fait d'optimiser la consommation ou de minimiser la consommation de carburant pour un navire.
Et de l'équilibrer.
Et de l'équilibrer. Je peux le mettre gauche, droite, enfin bâbord, tribord ou un peu plus devant, un peu plus derrière pour équilibrer ma cargaison et éviter de surconsommer. Mais quand je fais ça, je récupère de l'eau d'un port X qui peut être souvent en Asie parce que c'est là que je charge, peut-être le port de Shanghai, un autre port, et je viens libérer ma cargaison soit aux États-Unis, soit en Europe, ça peut être Amsterdam ou Rotterdam, et lorsque je la libère, il faut que j'évite que des espèces invasives de l'eau du port de Shanghai viennent envahir les eaux du port de Rotterdam. Pour vous donner un petit exemple, les eaux du port de Rotterdam sont changées avec ce système de ballastage et de déballastage tous les 15 jours avec les navires qui déballastent et qui reballastent. Donc lorsque l'on sait qu'il peut y avoir des invasions de crabes bleus, de moules zébrées, de choléra, l'ensemble de ces bestioles, de ces maladies, de ces bactéries, pour éviter qu'elles se développent, il y a une réglementation qui a été mise en place et qui fait que lorsque vous mettez de l'eau dans vos ballasts ou que vous déchargez de l'eau de vos ballasts, vous êtes dans l'obligation d'avoir un système de traitement de cette eau. Et aujourd'hui, BioUV a équipé à peu près 1000 navires, c'est-à-dire 3 à 4 % de parts de marché, sur ce marché global qui était estimé autour de...
Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous êtes nombreux sur ce créneau qui finalement est arrivé très tard? 2017, c'est vraiment très tard. Il y a déjà bien longtemps qu'on parlait des problèmes d'envahissantes.
Exactement. C'est un problème qui existe depuis bien longtemps. Il faut souvent une certaine latence ou inertie. En fait, c'était l'Organisation Maritime Internationale qui attendait que 50% des pays qui signaient cette charte international, les valider. Il a fallu attendre 2017. Entre 2017 et aujourd'hui, à peu près, on estime un peu moins de 50 000 navires qui sont équipés. Et nous, on en est équipés.
Donc, il y a encore beaucoup à faire.
Alors, oui et non. Oui, parce que la réglementation peut être plus contraignante. Aujourd'hui, nos systèmes doivent filtrer jusqu'à 20 microns. On peut imaginer que ça puisse descendre. Deuxièmement, ils sont dédiés à des navires d'une certaine taille. On peut imaginer que ça puisse se réduire à des tailles de navires plus petits. Et puis, surtout, c'était obligatoire pour des navires qui avaient signé cette réglementation. Il reste encore plus de 40% des pays qui n'ont pas signé cette réglementation. Donc, on peut imaginer que ces pays qui vont les signer vont nous permettre de pouvoir...
On va espérer, en tout cas.
C'est ce qu'on va essayer de faire.
Alors, donc, maintenant, j'ai su aussi, en assistant à ce colloque, que vous travailliez sur... avec à peu près le même système sur l'éolien offshore. Alors, je ne savais pas qu'il y avait de l'eau dans l'éolien offshore. Est-ce que...
Alors, je vais essayer de vous expliquer. Voilà. En fait, on n'est pas très loin du même fonctionnement qu'un navire. C'est-à-dire que quand je mets des éoliennes qui sont plutôt éloignées du bord de mer, puisque plus ça va, plus on les éloigne du bord de mer, il faut pouvoir les sceller. Et donc, on met des élingues qui permettent de les raccrocher, mais on leur met aussi des systèmes de ballast, c'est-à-dire une espèce de bouée sous l'eau qui permet d'équilibrer en fonction des vents pour l'ensemble du champ. Et pour pouvoir les équilibrer, on met de l'eau à l'intérieur de ces bouées. Et cette eau, souvent, elle corrode et on a besoin de pouvoir la traiter. Donc, comme un navire, il y a une réglementation qui est assez similaire à celle des navires, qui implique qu'on nettoie, qu'on désinfecte les eaux des ballasts, des champs, des éoliennes en mer. Et donc, c'est ce qu'on essaie de proposer aujourd'hui avec des espèces de barges qui viennent régulièrement sur les champs pour pouvoir traiter les eaux des ballasts, des éoliennes, qui permettent d'équilibrer le champ en fonction du vent, et régulièrement. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui.
Alors, on va voir également que non seulement vous intervenez sur ces grands chantiers industriels, hein, que ce soit le nautisme ou que ce soit l'éolien, mais vous intervenez également pour traiter les ports de plaisance. Hein. Donc, on va écouter d'ailleurs ce qui se passe à Sète.
Dans le port de Sète, à deux pas des bateaux, un dispositif précurseur de recyclage des eaux usées. Dans ces conteneurs en béton sont traitées les eaux issues des toilettes, des douches et des lavabos des bâtiments du pôle nautique.
Donc sur ce système de traitement, on a une première partie qui vient réceptionner toutes les eaux usées. On les préfiltre pour éviter les grosses matières. Et ensuite, ça passe dans un système ici de traitement biologique. Donc les bactéries vont dégrader les matières et les polluants. Et on a des membranes immergées qui vont permettre de faire la filtration finale qui va séparer l'eau de tous les polluants.
Une station d'épuration miniature qui permet de réutiliser cette eau, notamment pour nettoyer les coques des bateaux. Une économie de 6 millions de litres d'eau potable chaque année, soit la consommation de 40 000 personnes. Pour le port de Sète, cela valait bien l'investissement de 200 000 euros.
L'eau potable, même dans un port où on a plein d'eau à côté, reste une ressource extrêmement rare. Dans un milieu industriel où on en utilise beaucoup, et voilà, on a des gens qui l'utilisent pour les karchers, il y a les sanitaires, il y a les douches. Et avant, en fait, on pensait que c'était pas un problème. C'est vrai que c'était simple d'ouvrir un robinet et de se dire qu'on avait de l'eau. Voilà, cette prise de conscience aujourd'hui, il faut qu'elle soit à toutes les échelles, hein, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des particuliers, et au niveau évidemment de chaque étape de consommation d'eau.
Alors, nous allons donc reprendre. Je rappelle que j'ai avec moi Laurent-Emmanuel Michon, qui est donc directeur, enfin président de BioUV à Lunel. Alors, maintenant qu'on a vu les grands usages, on va dire, industriels de cette dimension de la réutilisation de l'eau, essayons de voir un peu aujourd'hui comment les choses se passent au niveau des eaux usées. Alors, on en a beaucoup, beaucoup parlé, et notamment, on en a entendu énormément parler à cause du retard de la France. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus ?
Effectivement, la France a du retard sur son territoire, puisque la réutilisation des eaux usées ne représente à peu près qu'un pour cent de ce que l'on consomme sur le territoire français, alors que sur certains pays comme Israël qui a plus de 90%, l'Espagne qui est autour de 18% et qui met un plan très agressif pour pouvoir développer cette réutilisation des eaux usées, voire même l'Italie qui a plus de 12%, nous on a un petit pourcent. Ce qui est paradoxal, c'est que ces territoires qui sont en avance sur nous utilisent des technologies et des opérateurs français, c'est-à-dire que ce sont des Suez, des Veolia, sans faire de publicité, qui ont mis en place ces systèmes de réutilisation d'eau usée sur des territoires qui ne sont pas les nôtres. Donc on peut imaginer que sur notre territoire, ça ne devrait pas poser trop de problèmes techniques pour pouvoir le faire. Effectivement, on peut penser que ce sont plus des problèmes liés à la réglementation, liés à des problèmes culturels d'application, parce qu'on a été plutôt... Alors, je ne devrais pas dire ça quand on n'est pas très loin des Pyrénées-Orientales, parce que c'est vrai qu'ils souffrent d'un manque d'eau, mais globalement, la France est plutôt un territoire béni des dieux pour ce qui concerne sa pluviométrie et son accès à l'eau.
Vous avez raison, on a réellement deux France maintenant, de plus en plus. On a une France qui est sous l'eau et on a une France qui est en manque d'eau. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle de l'eau réutilisée ?
En fait, c'est la capacité à pouvoir avoir
un usage. On parle d'eau grise aussi.
Oui, on parle en fait d'eau qui ont déjà eu un premier usage et qu'on essaye de réutiliser pour différents usages.
Ce sont l'eau de nos chasses d'eau, c'est l'eau de notre robinet, c'est l'eau...
C'est l'eau qui a déjà eu un premier usage, qui est effectivement l'eau de nos chasses d'eau, l'eau... Ça, c'est pour notre consommation personnelle, mais on peut imaginer aussi que dans des entreprises, on utilise de l'eau et au lieu de la remettre directement pour qu'elle reparte dans la station d'épuration, qu'on puisse la réutiliser à l'intérieur de l'entreprise. On peut imaginer aussi que dans d'autres usages, on fasse un deuxième usage, voire un troisième, voire un quatrième usage. Donc en fait, c'est un cycle de vie qui soit un peu plus long.
C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire.
C'est ça.
Voilà, c'est tout à fait de l'économie circulaire. Alors... On est ici donc en Occitanie. Effectivement, comme vous le soulignez, on a souffert réellement d'un manque d'eau, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Et on voit aussi, enfin, on en a parlé à cette antenne, des problèmes qu'a rencontré la vigne avec la remontée, notamment, du sel à cause de la montée de la mer. Donc, on ne pouvait plus utiliser d'eau douce, finalement, parce qu'on en manquait pour alimenter finalement l'irrigation des vignes. Alors, à quoi vous vous êtes heurté? Parce que finalement, c'était un problème crucial quand même. Et donc, on aurait pu agir. Enfin, on a entendu d'ailleurs des gens comme Éric Servat au niveau de l'UNESCO. On a entendu des gens qui appelaient à cette réutilisation. Vous avez vécu quoi?
Alors, nous, on opère assez fortement sur notre territoire, l'Occitanie, qui est un laboratoire, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être le territoire qui est le plus en difficulté quant à la raréfaction de l'eau. Si on prend l'Aude, les Pyrénées-Orientales, une partie de l'Hérault, on a vraiment ces problématiques-là qui sont majeures. Et nous, on opère en fait à différents niveaux. Le premier, c'est qu'on essaie de travailler avec les stations d'épuration, les stations municipales, pour faire que les eaux qui soient en sortie d'épuration, de stations d'épuration, puissent être réutilisées quand on est au bord du littoral. Parce que ces eaux, en fait, partent réellement dans la mer. Donc, elles sont perdues. Il faut faire attention. On ne peut pas faire la même chose lorsqu'on se situe plus en amont des rivières. Parce qu'il faut ne pas oublier que lorsqu'on se retrouve au moment de l'étiage, les stations d'épuration amènent aussi un peu de volume d'eau dans ces périodes un peu compliquées que sont l'été. Donc aujourd'hui, la réutilisation des eaux usées, traitées en sortie de stations d'épuration a un vrai intérêt quand on est au bord du littoral parce que c'est de l'eau perdue. Donc au lieu de la perdre, on la réutilise. Après, pour quels usages on peut le faire?
Mais là, vous ramez quand même, si je puis dire.
Alors ça peut être compliqué, effectivement, parce qu'entre le moment où on a une demande et le moment où on peut le mettre en application, il y a un certain nombre de dossiers, il y a des réglementations qui sont nécessaires, qui font que ça peut être très long pour pouvoir y arriver. Lorsque l'on a les décrets, lorsqu'on a les spécifications techniques qui nous sont données, ça commence à venir, on commence à les avoir dans l'Hérault.
Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller plus vite?
Ah, bien sûr qu'on pourrait aller plus vite.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça?
Eh bien, comme on fait dans les PO, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on expérimente et on regarde après ce qui se passe. Plutôt que de faire des dossiers qui permettent, pour s'assurer qu'on soit en conformité, tentons, essayons, mettons des prototypes, regardons ce que ça donne. Et si ça donne bien, après, on pourra mettre en place des réglementations.
Donc, on est toujours, en fait, face à cette espèce de lenteur administrative française qui bloque beaucoup de choses.
C'est vrai qu'on n'est pas toujours aidé. On pourrait faire beaucoup plus vite pour répondre à votre question.
Voilà. Alors, donc, cette ressource, on va l'utiliser à quoi? Et dans les autres pays du monde, on l'utilise à quoi essentiellement?
Alors, cette ressource, elle peut être utilisée jusqu'à de la potabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains territoires, je pense que Singapour fait partie de ces territoires-là, ils boivent de l'eau qui a été de l'eau réutilisée.
Alors ça, on va en parler parce que c'est ce que vous tentez de faire sur l'UNEL?
Alors non, sur l'UNEL, en fait, c'est plutôt pour ramener de l'eau dans une zone Natura 2000. Donc
d'accord.
On ne va pas dans de la potabilisation. Et aujourd'hui, il y a un problème culturel. C'est est-ce que je suis capable de vous parler des eaux usées qui viennent de nos toilettes? Est-ce que je suis capable de boire l'eau qui vient de mes toilettes lorsqu'elle a été retraitée? À Singapour, c'est le cas. Nous, on a encore des barrages. Vous parliez d'Éric Servage. Il y a peu de temps, je discutais avec un chercheur de l'INRA qui a travaillé sur le barrage psychologique de dire est-ce que je peux manger des fruits qui sont issus d'une irrigation, des fruits ou des légumes, qui sont issus d'une irrigation qui viendrait de la reuse. Et bien, on s'aperçoit que même des élèves ingénieurs agronomes, c'est mon background, aujourd'hui, alors qu'ils savent comment ça marche, ne sont pas prêts à manger des légumes qui auraient été irrigués par un système de réutilisation des eaux usées. Donc quelqu'un qui n'a même pas cette formation, qui n'a pas cette sensibilité, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on a plus de 50% des gens qui ne sont pas prêts à prendre des légumes ou des fruits qui auraient été alimentés par de la réutilisation des eaux usées traitées.
Donc on s'aperçoit en fait qu'on a énormément de blocages qui sont souvent d'ordre culturel.
Aussi. Mais ça viendra.
Mais et comment vous allez faire alors pour accélérer les choses? Parce que là, il faut accélérer les choses.
Il faut. Alors on voit, je crois que c'est la patate, la rate de Noirmoutier ou de l'île de Ré, c'est déjà de la reuse. Personne ne le sait, tout le monde en veut. Les gens le savent, mais ça ne les empêche pas de consommer. Donc on peut aussi continuer à essayer de former dès le plus jeune âge. Je crois que la raréfaction de l'eau, la réutilisation de l'eau, ça doit commencer à l'école. Il faut qu'il y ait des formations, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Tout le monde doit essayer de le faire. Le deuxième élément, il faut qu'on ait une administration qui nous aide plus vite pour pouvoir aller plus rapidement là-dessus. Les technologies, on les a, hein, puisque aujourd'hui, si en Israël ou en Espagne, ça fonctionne, c'est parce qu'on a des grands groupes qui ont déjà les technologies. Même des plus petits groupes comme nous, on peut aider, on le fait. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, nous, on commercialise l'équivalent de la consommation de la ville de Paris en réutilisation. C'est-à-dire qu'on fait 15 millions de mètres cubes. Les systèmes qu'on vend en reuse, c'est 15 millions de mètres cubes.
Alors, vous me parliez, effectivement, donc de toute façon, on ne va pas avoir le temps de parler réellement de ce qui se passe à Lunel, mais vous nous en direz deux mots. Vous me parliez de ce que vous faisiez en Bretagne. Vous avez donc un travail avec l'industrie agroalimentaire.
Hein. Oui, en fait, il y a un nouveau décret qui est très important. C'est qu'on a laissé la possibilité aux industries agroalimentaires de pouvoir réincorporer dans leur process agroalimentaire de l'eau qui a déjà été utilisée.
Mais ça, personne ne le sait.
Ça vient de sortir, c'est sorti cet été, sous contrainte, parce qu'on ne veut pas non plus faire n'importe quoi, mais c'est un élément très important pour des zones où l'eau est plutôt rare d'accès, pour lesquelles ça permet d'avoir un élément aussi plus compétitif, parce qu'au lieu de racheter de l'eau, je peux réinjecter mon eau, sous réserve qu'elle soit conforme au cahier des charges tel que défini par le consommateur, par l'administration et bien évidemment les cahiers des charges internes. Mais c'est un élément très nouveau qui existait déjà dans d'autres territoires. En Italie, en Espagne, ça existait déjà. Donc en France, on se met juste en conformité avec
les territoires. Et c'est une grosse économie ?
Alors, vous savez que la consommation d'eau à 70%, c'est l'agriculture. À plus de 15%, 15-20%, c'est l'industrie. Donc on est en train de travailler sur les 20% d'eau qui était consommée par l'industrie. Il faut aussi se rappeler qu'il peut y avoir des décrets qui bloquent la consommation par les industries. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux avoir une industrie qui est bloquée dans certaines périodes de l'année parce que j'ai plus d'accès à l'eau et que je fais des arbitrages.
Absolument.
Donc aujourd'hui, c'est aussi une capacité pour une industrie à pouvoir produire toute l'année.
Alors, on va être obligé de se quitter bientôt. Dites-nous quand même un petit mot sur Lunel. Donc, parce que qu'est-ce que vous tentez de faire sur Lunel même?
Alors, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, on a mis en place avec la mairie et l'exploitant sur Lunel un très gros système qui permet de traiter 700 mètres cubeurs. Donc, ça ne parle peut-être pas tout le monde, mais c'est un système qui est très, très significatif et qui est très important. Et en fait, qui permet de réalimenter la zone Natura 2000 qui est juste à côté de la station municipale de Lunel.
Donc on lui remettrait de l'eau.
On remettrait de l'eau pour cette zone. On travaille aussi sur une autre application qui permettrait d'irriguer les parcs à l'intérieur de Lunel, de pouvoir irriguer les espaces verts, les terrains de foot, les terrains sportifs. Et on est en train de regarder aussi pour pouvoir traiter tout ce qui est les eaux de lavage des voiries.
Alors oui, effectivement, parce que mais est-ce qu'on aura assez d'eau, justement? Parce que ce que vous êtes en train de faire, par exemple, sur les golfs, ça va, parce qu'il n'y en a pas tellement en France, mais demain, les terrains de foot peuvent demander la même chose. Or, ils sont très, très nombreux. Donc, est-ce qu'on aura assez d'eau pour la réutiliser?
Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est pas forcément...
Enfin, où est-ce que vous le mesurez, quoi? Voilà.
Pour pouvoir avoir un usage performant, il faut non seulement un volume d'eau, mais il faut aussi un volume d'eau à un bon prix. Le volume, on est capable de le traiter, on a les instruments pour pouvoir le faire, mais il faut l'amener jusqu'à l'endroit où on doit pouvoir l'utiliser. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, soit on met des canalisations et ça coûte assez cher, soit on met du stockage, et là on peut trouver. Mais le stockage est limité.
Merci.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt, j'espère.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.